Il y a des gens qui n'arrêtent de parler que pour dormir, et encore. Alors celui qui les fréquente s'habitue à ce bruit de fond. Mais si un jour il remarque le silence, c'est qu'il se passe forcément quelque chose d'anormal. Pareillement, la voix du prophète Ézéchiel qui annonçait inlassablement la ruine prochaine de Jérusalem s'est tue depuis que les armées de Babylone assiègent la ville. Jérémie, le prophète au cœur brisé, pleure sur le malheur de son peuple. Il préfigure celui qui viendra dans un peu moins de 6 siècles et qui, embrassant du regard Jérusalem, pleurera sur elle parce qu'elle sera détruite à nouveau, car ses habitants se seront détournés du Dieu vivant. Ézéchiel, qui vient soudainement de perdre sa femme bien-aimée, ne pleure pas et ne manifeste aucun signe de deuil parce que l'Éternel le lui a interdit. On dirait qu'il a un cœur de pierre. Lui et Jérémie révèlent les deux faces de Dieu. D'un côté, il est tendre, doux et miséricordieux. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort sur une croix pour nous racheter. Mais écoutez ce que le Seigneur dit aux villes impénitentes. « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie. » Elle aurait manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras précipité au séjour des morts. » Fin de citation. Cette condamnation est tellement dure qu'elle donne froid dans le dos. Dieu a deux aspects, la grâce qui pardonne et la justice qui condamne. C'est vrai que le Seigneur est amour, mais il est également saint. Et dans les Écritures, cet attribut apparaît bien plus souvent que l'amour. Nul n'accède au ciel en voguant sur un petit nuage rose. La porte des cieux ne s'ouvre que pour celui qui place sa confiance en Jésus. Alors, revêtu de la justice du Christ, il devient présentable, acceptable et digne de recevoir la vie éternelle. Mais pour ceux qui rejettent le Seigneur, il ne reste que le jugement. Comme Ézéchiel n'écrit pas l'histoire mais des prophéties, maintenant que le siège de Jérusalem a débuté, il n'a plus rien à dire et ce sont les événements qui vont parler. Pourtant, il continue à écrire. La deuxième grande section du livre d'Ézéchiel concerne des nations étrangères. Ce recueil est intercalé entre les prophéties contre Jérusalem et la promesse de son relèvement glorieux. Ces oracles ne sont pas rangés ou placés dans un ordre chronologique. Certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à la destruction de Jérusalem. Ézéchiel imite deux de ses prédécesseurs, Ésaïe et Jérémie, dont les discours contre des peuples étrangers ont aussi été réunis dans un recueil particulier inséré dans le livre de leurs prophéties. Ézéchiel place ses oracles ici pour remplir le silence que Dieu lui a imposé entre les deux périodes actives de son ministère. Le discours adressé à 7 nations, petites et grandes, se compose de 13 oracles. Le premier est contre Ammon, Moab, Édom, qui formaient la frontière est de Juda de l'autre côté du Jourdain. Le prophète leur reproche leur raillerie car elles atteignaient l'Éternel en personne. Il inclut dans cet oracle les Philistins situés à l'ouest de Juda dans la bande de Gaza parce qu'ils ont toujours voulu détruire Israël. Puis nous avons 4 longs oracles contre la ville-état de Tyr située au nord de Juda dans le Liban actuel. Le prophète lui reproche de s'être réjoui du malheur de Jérusalem ainsi que son orgueil à cause de ses réussites commerciales et de sa prospérité. Ensuite, il prononce un oracle contre Sidon, une ville phénicienne à 30 km au nord de Tyr. Finalement, il prononce 7 oracles contre le pays d'Égypte parce qu'il n'a pas été un allié loyal et abandonna Juda aux Babyloniens. Ézéchiel ne prophétise pas contre Babylone parce que les colons israélites doivent rechercher le bien de la nation où Dieu les a exilés. De plus, ce n'est pas de la vengeance que les exilés doivent ressentir, mais du repentir. Cependant, il fallait que, par les menaces adressées aux autres peuples, les Israélites sachent que l'Éternel ne les livrait pas impunément à leurs moqueries et qu'il ne tolérait pas l'insolence des païens parce qu'elle était un défi lancé contre la justice et la puissance du Dieu d'Israël. Tous ces oracles se terminent par une formule du genre « Et ils sauront que je suis l'Éternel » qui revient tel un refrain. Cette affirmation souligne que le jugement de ces peuples manifeste la souveraineté de l'Éternel qu'ils ont contesté. Cette reconnaissance universelle du Dieu unique est le début de la conquête morale du monde païen. Mais pour qu'un peuple reconnaisse la souveraineté de Dieu et lui soit soumis, il faut que sa force soit brisée par le jugement. Je commence à lire le chapitre 25 en compressant. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, dirige ton regard en direction des Ammonites. Voici ce que vous dit le Seigneur l'Éternel. Tu as crié « Ha ha !» lorsque mon sanctuaire a été profané, lorsque le pays d'Israël a été dévasté, lorsque la communauté de Juda est partie en exil. » Versets 1 à 3. Les Ammonites étaient les descendants d'une relation incestueuse entre Lot, le neveu d'Abraham, et sa fille Kadet. L'Éternel commence par ce peuple parce qu'il avait exprimé plus fortement que tous les autres sa joie de voir Jérusalem détruite. Le roi d'Ammon semble avoir aussi été l'instigateur du meurtre du gouverneur Guédalia mis en place par Nabuchodonosor et dernier espoir de Juda après la destruction de Jérusalem. Je continue en compressant. « À cause de cela, je vais te livrer aux tribus de l'Orient qui conquerront ton territoire. Ils dresseront chez toi leur campement, et ils établiront leur demeure chez toi. Ce sont eux, et non pas toi, qui mangeront tes fruits, eux qui boiront ton lait. Parce que tu as applaudi et trépigné, et que tu t'es réjoui avec tant de mépris au sujet d'Israël, de son pays, je vais porter la main sur toi, te donner en proie aux nations, et je te ferai disparaître en tant que peuple. Je t'exterminerai, et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. » Versets 4 à 6. Ce sont les Bédouins arabes, alors soumis aux Babyloniens, qui occuperont le territoire d'Ammon et qui profiteront de ses produits. Après avoir été envahis par Babylone, les Ammonites continueront d'exister jusqu'à l'époque de la famille de prêtres juifs appelés les Maccabées. Puis leur déclin fut rapide et aujourd'hui ils ont disparu. Je continue. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Moab et Séir disent « La communauté de Juda est devenue pareille à toutes les nations. » Verset 8. Les Moabites descendaient d'une relation incestueuse entre Lot, le neveu d'Abraham, et sa fille aînée. Ils habitaient au sud des Ammonites, à l'est de la mer Morte, et furent également envahis par les Babyloniens 5 ou 6 ans après la chute de Jérusalem. Séir désigne les Édomites, descendants d'Ésaü, frère de Jacob. Ils étaient installés dans les montagnes du sud de la mer Morte, mais une partie de leur territoire avait été conquise par les Moabites. Ces deux nations étaient irritées par la dignité d'Israël en tant que peuple de Dieu. À cause de cela, moi, je vais exposer les pentes de Moab en les dégarnissant de villes. Je démantelerai jusque sur ses frontières les villes du pays qui constituent sa gloire. Beth-Yeshimoth, Baal-Méon, Kiriataïm, et je les donnerai en pleine possession aux tribus de l'Orient. Versets 9 et 10. Les villes citées se trouvaient dans une contrée fertile située au nord de Moab et au sud d'Ammon entre deux rivières. L'Arnon, qui se jette dans la mer Morte, et le Yabok, 90 km plus au nord, qui se jette dans le Jourdain. Moïse avait donné ce territoire à la tribu de Ruben après la conquête de Canaan, mais les Moabites s'en étaient emparés. Éventuellement, les Moabites furent engloutis par les tribus arabes. Cependant, Ruth, qui est le nom d'un livre de l'Ancien Testament, était une femme issue de ce peuple et elle est même dans la lignée du roi David et donc du Christ. Je continue plus loin en compressant. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. À cause des actes d'Édom, lorsqu'il s'est vengé de Juda parce qu'il s'est rendu coupable d'une façon très grave en se vengeant, à cause de cela, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. J'exercerai ma rétribution sur Édom en me servant de mon peuple Israël. Ils se feront les instruments de mon indignation et de ma colère en Édom. Versets 12 à 14. Les Édomites se sont non seulement réjouis de la chute de Jérusalem, mais ils ont tué des Israélites en fuite. Il portait une haine de frères ennemis contre Israël. Ils devinrent vassal de Nabuchodonosor en 605 avant Jésus-Christ, puis furent soumis aux Arabes nabatéens, mais ce sont les Juifs qui, au IIe siècle avant Jésus-Christ, les assujettirent, les forçant même à adopter le judaïsme. Je finis ce chapitre en compressant. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Puisque les Philistins ont agi par vengeance et qu'ils se sont vengés, à cause de cela, je vais porter la main sur les Philistins. Je détruirai ceux qui sont venus de la Crète. Versets 15 et 16. Les Philistins étaient installés dans la plaine côtière de la Méditerranée à l'ouest de Juda. Originaires de l'île de Crète et ennemis depuis toujours des Israélites, ils avaient profité de la chute de Jérusalem pour assouvir leur haine. Mais d'abord soumis aux Babyloniens, ils disparurent complètement. Les chapitres 26 à 28 se composent de 5 oracles contre les 2 grandes villes phéniciennes, Tyr et Sidon, aujourd'hui au Liban, et aussi contre le roi de Tyr personnellement. Je commence à lire. La 11e année, le premier jour du premier mois, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, Tyr a dit contre Jérusalem, ha ha, elle est brisée, la porte des nations. Désormais, c'est vers moi que l'on va se tourner, et je vais être comblé, car la voici en ruine. » Versets 1 et 2. Nous sommes en 587 avant Jésus-Christ, l'année où Jérusalem fut détruite. Dotée de 2 ports, Tyr était une très grande puissance commerciale maritime, tandis que Jérusalem contrôlait la route des caravanes venant d'Égypte et desservant le Moyen-Orient et l'Asie mineure. Tyr se réjouit comme un commerçant se féliciterait de la banqueroute de son rival principal. Les Phéniciens allaient jusqu'au détroit de Gibraltar dans un lieu appelé Tarsis, ce qui veut dire raffinerie. Cette région était riche en minerais, et les navires au long cours tyriens faisaient la navette entre l'Espagne, la métropole et leurs autres colonies qui étaient un peu partout, autour du bassin méditerranéen et même jusqu'en Angleterre. Je continue en compressant. Voilà pourquoi le Seigneur l'Éternel parle ainsi. « Je m'en prends à toi, Tyr, je m'en vais soulever contre toi des nations, des peuples en grand nombre. » Comme la mer soulève ses vagues en furie, ils détruiront tes murs, ô Tyr, et abattront tes tours. Je raclerai pour emporter loin d'elle la poussière du sol, et je ne laisserai qu'un rocher dénudé. Voici qu'elle sera au milieu de la mer, un lieu où les pêcheurs étendront leurs filets pour les faire sécher. C'est moi qui vous le dis. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, et les nations la pilleront. J'amène contre Tyr Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Cet empereur viendra du nord avec des chevaux et des chars, des équipages nombreux et un immense rassemblement de troupes. Il massacrera par l'épée tes villes voisines bâties sur les terres de la côte, et il élèvera des terrassements contre toi. Il fera édifier des terrasses de siège, et il dressera contre toi un toit de bouclier. » Versets 3 à 8. Babylone assiégea Tyr pendant 13 ans. La ville côtière et les villes annexes furent totalement conquises, mais les Tyriens trouvèrent refuge dans une île fortifiée, mais qui finit quand même par capituler. La famille royale fut exilée et le roi sans doute exécuté. Cependant, grâce à leur flotte, les Tyriens avaient pu mettre à l'abri une grande partie de leurs richesses. À partir de cette conquête, le déclin de Tyr comme puissance commerciale et grand centre de négoce était amorcé. La ville fut bien reconstruite, mais 250 ans plus tard environ, c'est Alexandre le Grand qui l'attaqua. Il conquit les villes côtières, mais cette fois-ci encore, les habitants trouvèrent refuge dans l'îlot fortifié. Les Grecs rasèrent alors la ville de Tyr jusqu'à ses fondations et jetèrent tous les gravats dans la mer afin de construire un pont de presque 1 kilomètre de long en direction de l'îlot. À l'aide de navires qu'il fit construire, Alexandre le Grand lança un assaut final sur terre et sur mer et réussit à prendre cet îlot fortifié qui lui avait quand même résisté pendant 7 ans. Tyr fut éventuellement reconstruite, mais elle fut pillée par les croisés en l'an 1125 de notre ère pour être détruite une fois pour toutes par les musulmans en 1275. Aujourd'hui, l'un de ses ports est ensablé, et ce n'est plus qu'un pauvre village de pêcheurs sur la côte libanaise. Je continue plus loin. Il foulera toutes tes rues sous les sabots de ses chevaux, il passera tes habitants au fil de son épée, et les stèles qui font ta force seront jetées à terre. verset 11. Ces stèles sont des colonnes élevées en l'honneur de Baal, la principale divinité phénicienne. D'après l'historien Hérodote, il y en avait deux qui, dans le temple d'Hercule, étaient particulièrement remarquables. L'une était recouverte d'or et l'autre d'émeraude. Je continue plus loin. Voici ce que le Seigneur, l'Éternel, dit à Tyr. Les habitants des îles ne trembleront-ils pas au fracas de ta chute quand au milieu de toi, dans un affreux carnage, les blessés gémiront? Verset 15. Dans l'Ancien Testament, les îles est un terme qui désigne tous les pays baignés par la Méditerranée. La destruction de Tyr, grande puissance maritime et commerciale par les Babyloniens, jettera la consternation chez tous les peuples qui entretenaient avec elle des relations commerciales. Je continue en compressant. Les princes de la mer descendront de leur trône, tous ils enlèveront leurs manteaux d'apparat et se dépouilleront de leurs habits brodés pour se vêtir d'effroi. Puis ils prononceront sur toi une complainte. Comment as-tu péri, ô toi dont la demeure sortait du sein des mers, ô cité tant vantée, puissante sur les flots, avec ses habitants et qui répandait la terreur sur tous les alentours? Versets 16 et 17. Les magistrats des colonies seront confondus par le malheur qui aura frappé leur métropole. Tyr, la grande cité marchande, était avec sa puissante flotte ce que furent plus tard les républiques de Venise ou de Gênes. Tous les peuples de la Méditerranée avaient le plus profond respect pour ses citoyens. Je continue plus loin et finis le chapitre 24. « Je te ferai descendre avec ceux qui descendent dans la fosse, vers ceux des temps passés. Je te ferai habiter dans le pays des profondeurs. Semblable à des ruines éternelles, tu seras avec ceux qui descendent dans la fosse, afin que jamais plus tu ne sois habité. Tu n'auras plus de place au pays des vivants. Je ferai de toi un objet d'épouvante. Et s'en sera fini de toi. Les gens te chercheront, mais plus jamais ils ne te trouveront. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. » Versets 20 et 21. Tyr est ici personnifié. Ce n'est plus l'océan qui l'engloutit, mais le séjour des morts. Je commence à lire le chapitre 27. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, entonne une complainte sur la cité de Tyr. Déclare donc à Tyr, ô toi qui es assise aux portes de la mer, toi qui commerces avec tant de peuplades et des îles sans nombre, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Toi, ô Tyr, tu as dit, ma beauté est parfaite, ton territoire va jusqu'au cœur des mers, et ceux qui t'ont construit t'ont rendu ta beauté parfaite. » Versets 1 à 4. Tyr, cité opulente, était devenue orgueilleuse. La gloire de l'homme, les grandes pompes et la prospérité matérielle ont conduit des empires à leur ruine ou tout au moins à leur humiliation. C'est bien le cas pour la France. Le prophète va contempler la grande cité marchande et la comparer à un splendide navire admirablement construit et équipé qui traverse fièrement les grosses eaux emportant et rapportant des marchandises du monde entier. Ce premier tableau va décrire la beauté et la puissance de Tyr. Je continue. Ils ont bâti tous tes bordages en cyprès de Sénir. Ils t'ont donné pour mât un cèdre du Liban. Ils ont pris pour tes rames des chênes du Bazan. Ton pont est en ivoire incrusté dans du buis importé des îles de Chypre. Du lin brodé d'Égypte servait de voilure, c'était ton pavillon. Tu avais pour tenture la pourpre et l'écarlate des îles d'Elisha. Versets 5 et 7. Elisha désigne le Péloponnèse, la péninsule séparée de la Grèce par l'isthme de Corinthe. Sur les rives d'une de ces régions, appelée Laconie, et qui avait Sparte comme ville principale, on trouvait en abondance le coquillage qui, écrasé, servait à fabriquer la couleur pourpre. Les navires de Tyr étaient fabriqués avec les meilleurs matériaux disponibles, les bordages en cyprès de Sénir, c'est-à-dire du mont Hermon, au nord du lac de Galilée, le mât en cèdre, les rames en chêne, et le pont en buis incrusté d'ivoire, un usage confirmé par le poète grec Virgile. Enfin, la voilure était en lin brodé d'Égypte. Je continue. Les habitants d'Arvad et de Sidon te servaient de rameurs. Les plus experts des sages qui vivaient dans tes murs te servaient de pilotes. Tu employais chez toi les ouvriers expérimentés de Byblos, ces artisans habiles pour boucher tes fissures. tous les bateaux des mers avec leurs matelots se rencontraient chez toi pour négocier tes marchandises. » Versets 8 et 9. Arvad, Byblos et Sidon étaient des ports sur la côte phénicienne. Tandis que Tyr confiait les rames de ses vaisseaux et les tâches subalternes aux habitants de ses villes vassales, elle se réservait l'honneur de fournir les pilotes. Tout comme la richesse et la grandeur légendaires de Tyr font partie de l'histoire, je me demande ce qu'il en sera de nos pays nantis.